Salut à toutes, salut à tous, vous êtes sur RTF 95.4 MHz et vous écoutez le Mandarin Merveilleux, les réducteurs de texte. Bonsoir Francis, comment allez-vous ?
Eh ben ça va bien Jean-François, bon. Je vois que vous avez apporté deux beaux livres.
Alors j'ai porté deux livres, alors c'est un peu le hasard, hein, je ne l'ai pas calculé comme ça. Deux livres édités chez Flammarion, deux livres écrits par des femmes et deux livres écrits par des femmes un peu qui sortent de l'ordinaire. Alors c'est donc de Catherine Millet, Jour de souffrance, et de Constance Debray, Non, N-O-M. Mm-hmm. Voilà. Et puis, j'ai porté un peu de musique classique, comme d'habitude, du connu et du moins connu. Voilà. Et ouais. Alors, je vois que vous avez... Oh là là !
J'ai plein de disques de jazz.
Vous avez une pile de...
Dont pratiquement uniquement des nouveautés. Donc,
ouais,
vous verrez,
des nouveautés qui sont, j'imagine, signées, dédicacées, comme d'habitude.
Exclusivement.
C'est pas vrai.
Ouais.
Quel snobisme. Bon.
C'est comme ça.
C'est comme ça. Alors, eh ben on va commencer par écouter un peu de musique classique.
Ah ben ça, c'est une bonne idée, Jean-François.
Alors, ce que je vous propose, c'est d'écouter une œuvre qui s'appelle La Battaglia.
Mm.
C'est un genre... Alors, c'est une œuvre qui date de la fin du XVIIe siècle. Hein. C'est de Pedro de Arrojo, musicien portugais, je pense. 1662-1705, et donc il a écrit cette pièce qui s'appelle La Battaglia. Vous savez, il y a la bataille de Marignan, de Clément Jeannequin, en fait, etc. C'était une espèce de style musical assez pratiqué à l'époque. Ici, je vous propose tout simplement de l'écouter. Alors, c'est un ensemble néerlandais. Bon, j'espère que on ne m'en voudra pas. David Kvesilber, Lavinia Meyer, Naomi Soto, Ivo Janssen, Yoneke Roche et Aurélia. Enfin bref, difficile à prononcer. Voilà, ce sont des artistes néerlandais qui ont enregistré cette œuvre donc de Pedro de Arrojo.
Je me suis quand même étonné car vous prononcez très bien l'anglais, l'allemand, le russe, l'occitan, mais sur le hollandais vous buchez.
Je suis faible.
Ah, il va falloir prendre des cours avec Babel ou d'autres.
Mais
d'autres
pas du tout. Je vais demander à notre ancienne directrice des programmes, Nathalie Duport.
Ah, qui est maintenant installée.
Qui est maintenant installée aux Pays-Bas.
Oui, voilà. Excellente idée. Nathalie, toi qui nous écoutes comme d'habitude, entends cet appel au secours de Jean-François.
Thank you.
Voilà, c'était la Battaglia de Pedro de Araujo.
Un peu de jazz maintenant, je crois.
Un peu de jazz, ça va nous changer. Hein.
Ça va nous changer. Alors, ce sont des musiciens que j'ai entendus cet été. Je veux dire par là, cet été 2024. Si vous nous écoutez en direct, c'est très récent, c'est il y a quelques jours. Si vous nous écoutez en rediffusion dans les années 2030, évidemment, les musiciens dont je vous parle auront un peu pris de la maturité. Ce sont de jeunes musiciens français. Alors, je les ai vus il n'y a pas très longtemps, donc, au festival d'Argenton-sur-Creuse, comme chaque été, et qui est un petit festival très, très intéressant. On y voit des artistes qui vont se produire à Jazz in Marciac ou à Jazz à Vienne, et qui ont des dates sur le chemin de l'aller ou du retour. Ce qui nous permet de les voir dans un petit espace où on est à 300-400 spectateurs, donc de très près. On est proche des musiciens, l'acoustique est excellente. Alors que si vous allez à Jazz à Vienne ou à Jazz in Marciac, vous voyez les mêmes pour deux fois plus cher, en étant dix fois plus loin, au fond d'un immense chapiteau de 15 000 places, où on voit les gens grands comme des fourmis ou plus petits que sur l'écran de votre téléphone. Ancienne version. Voilà, alors j'ai vu donc Léon Fall et ses saxophonistes et ses amis musiciens Gauthier Thou, qui joue du piano, Zachary Six, qui est un excellent trompettiste, et à la batterie Arthur Allard. Alors, ce sont de jeunes musiciens français très prometteurs, qui ont déjà une belle petite carrière derrière eux, qui se produisent un petit peu partout en Europe. Et là, donc, on a eu la chance de les voir tout près de chez nous. Et c'était extrêmement agréable. Alors, je vous propose de découvrir le disque le plus récent de Léon Fall, qui s'appelle Stress Killer, et qui a été l'objet du concert que nous avons pu voir cet été. Voilà, après cette page jazz avec Léon Fall, je vois que Jean-François a en main le premier livre de cette émission.
Le premier livre, alors Constance Debré, c'est une personne tout à fait étonnante. C'est la petite fille de Michel Debré, le ministre. C'est la nièce de Jean-Louis Debré, qui a été ministre de l'Intérieur et qui a été président du Conseil constitutionnel. Et c'est la nièce aussi de l'autre Debré, Bernard Debré, qui est décédé et qui était le jumeau de, hein, etc. Et donc elle est de cette grande famille des Debré qui comptait le père de Michel Debré, où son grand-père était rabbin. Ils sont d'origine juive, mais ils sont apparentés avec tout un tas de familles aristocratiques, pleines d'argent, des gens qui habitent dans les châteaux, qui pour les vacances rendent visite d'un château à l'autre, etc., etc. Et alors, quant à Constance Debré, alors elle raconte qu'elle est lesbienne, ce qui est bien son droit. Mais surtout, j'ai eu l'occasion de la voir et elle a le crâne rasé, elle a des tatouages. C'est un personnage très étonnant. Alors, elle était, je crois qu'elle ne l'est plus, mais elle était avocate au barreau de Paris. Elle a fait des études de droit. Elle était avocate et elle a eu un fils avec un homme. Et la justice lui a retiré non seulement la garde, mais même le droit de visite avec son fils. Vous dire que c'est quand même, vous savez, pour que la justice retire le droit de visite à une mère, faut vraiment qu'elle ait fait les 400 coups. Et elle raconte, alors, entre autres, mais elle raconte que, d'ailleurs sans révolte particulière, elle semble considérer que c'est assez normal. Attendez, on l'autorise à le voir une heure tous les deux mois dans un local étudié pour, au sein d'une association étudiée pour. Vous voyez, donc bon. Et alors là, donc non, le nom de famille, etc. Donc c'est une. Elle parle là surtout de ses parents et de son père. Alors son père, qui était le frère des Debré que j'ai nommé tout à l'heure, et qui a commencé par être journaliste, et qui est tombé dans la drogue. Mais quand on dit tombé dans la drogue, c'est pour de vrai. C'est-à-dire qu'il se piquait à l'héroïne, etc., etc. Et donc, elle raconte ses relations très difficiles avec ce père très difficile. Voilà. Alors, ça donne quoi? Elle parle beaucoup d'elle aussi, mais donc, ça donne quoi? Ben, ça donne un livre qui se lit avec un certain, je dirais pas plaisir, parce que c'est pas du plaisir, disons, un certain intérêt. Voilà. Un certain intérêt, où de temps en temps elle explique que finalement il y a une espèce de vraie conspiration des puissants et des riches, c'est-à-dire de gens qui ont un nom, et qu'ils se retrouveront toujours à se partager plus ou moins le pouvoir, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre, alors que en fait, le petit peuple, eh ben lui, il croira peut-être qu'il a du pouvoir parce qu'il a un bulletin de vote, mais en réalité, ça ne lui servira à rien. Voilà, donc Constance Debré, non, M-N-O-M, c'est aux éditions Flammarion, et elle a écrit également un roman, enfin deux romans d'ailleurs, qui s'appellent Playboy pour l'un, en 2018, et Love Me Tender, 2020, pour l'autre.
Kuckuck hat sich zu Tode gefallen an einer grünen Weiden, Weiden, Weiden. Kuckuck ist tot, hat sich zu Tod gefallen. Wir sollen uns denn den Sommer lang die Zeit und Weil vertreiben. Wir sollen's denn den Sommer lang die Zeit und Weil vertreiben. A
bei der Zollkuhfrau Nachtigall, die sitzt auf grünem Zweig. Die kleine, feine Nachtigall, die liebe, süße Nachtigall, sie singt und springt, ist allzeit froh, wenn andere Vögel schweigen. Wir warten auf Frau Nachtigall, die wohnt im grünen Hag. Und wenn der Kuckuck zu Ende ist, dann fängt sie an zu schlagen. Kuckuck und Nachtigall täten ein Wettanschlagen zu singen um das Meisterstück. Gewinn es Kunst, gewinn es Glück, Dank soll er davon tragen. Sprach, so dir's gefällt, hab ich den Richter wählt und tät gleich den Esel ernennen, denn weil er hat sein Ohren groß, Ohren groß, Ohren groß, so kann er hören, desto muss und was recht ist kennen. Sie flogen vor den Richter bald. Wie denn die Sache ward erzählt, schuf er, sie sollten singen. Die Nachtigall sang lieblich aus. Der Esel sprach, du machst mir's Kraus. Ich, ich kann's in Kopf nicht bringen. Der Kuckuck drauf fing an, geschwind sein Sang durch Tert und Quart und Quint. Dem Esel quise sprach nur, wart, 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 dein Urteil will ich sprechen, ja sprechen. Gesungen hast du Nachtigall, aber Kuckuck singst Gutchoral und hältst den Takt fein innen, da sprech ich nach mein Unverstand, und lass es heißt ein ganzes Land, so lass ich dich gewinnen.
Thank you. scorschete Hechte, die immer zu fechten, sind eilends verschwommen, zu hören den Frommen. Ach, jene Phantasten, die immer zu fasten, die Stockfisch, ich meine, zur Predigt erscheinen. Kein Predigt niemals, den Stockfisch so gefallen. Doch Krebs, Schildkröten, so langsame Boten steigen eilig vom Grund zu hören diesen Mund. Kein Predigt niemalen, den Krebsen zu gefallen, Fisch große, Fisch kleine, vornehm und gemeine, erheben die Köpfe wie verständige Geschöpfe. Auf Gottes Begehren, die Predigt dann hören. Die Predigt geendet, ein jeder sich wendet. Bleiben Diebe, die alle viel lieben, die Krebsen gefallen, die bleiben wie alle, die Krebs gehen zurück, die Stockfisch bleiben weg, die Karpen viel fressen, die Predigt vergessen, vergessen. Die Predigt hat gefallen, sie bleiben wie alle, die Predigt hat gefallen, hat gefallen.
Voilà, eh bien nous venons d'écouter quatre pièces d'un recueil de Gustav Mahler qui s'appelle Des Knaben Wunderhorn, le corps magique du garçon. Voilà, alors nous, en particulier le dernier qui est, alors ce sont des textes un peu des textes traditionnels allemands qui ont été collectés et réécrits par deux célèbres poète romantique allemand, c'était Brentano et Arnim, Kim von Arnim. Voilà, et celui que nous avons écouté, le dernier, c'était le prêche de saint Antoine de Padoue aux poissons. Ouais. C'était saint François qui prêchait aux oiseaux, lui prêchait aux poissons. Bien, interprété par Thomas Hampson, baryton, et Wolfram Reger au piano, c'était en 1995.
Piano toujours, mais jazz cette fois-ci, avec Thomas Maieras. Alors Jean-François, on regardait tout à l'heure qui étaient les parents et grands-parents de Thomas Maieras, car ce nom dit forcément quelque chose aux amateurs de piano à Limoges. Alors en effet, il est bien le petit-fils de Magui Anduru Maieras, qui était professeur de piano, qui peut-être enseigne encore sur Limoges, qui a formé beaucoup, beaucoup de pianistes. Et il est aussi le fils de Alain Maieras, qui lui est connu aussi dans les milieux du jazz. Voilà. Et alors Thomas, c'est donc la troisième génération de pianistes de la famille. C'est un garçon extrêmement sympathique, très bon compositeur. Il a fait ses classes avec de grands musiciens de jazz, hein. Et il compose maintenant et il interprète ses compositions en trio. Alors on a eu le plaisir de l'entendre à Limoges en 2023 interprétant des compositions qu'il avait écrites en 2022. Alors je vous propose de découvrir l'une de ses compositions qui est Pont d'Espagne. Pont d'Espagne, vous connaissez peut-être, Jean-François, c'est un endroit dans les Pyrénées.
Oui, tout à fait.
Au-dessus de Cotteret.
Oui, oui, tout à fait.
Qui lui a inspiré cette composition. Je n'ai pas nommé les musiciens qui accompagnent Thomas Maïras au piano. C'est Anthony Mussio à la contrebasse et Germain Cornet à la batterie. Et avouez que c'est très agréable à écouter. Et il est maintenant l'heure du deuxième livre de Jean-François.
Alors, est-ce que vous savez, Francis, ce que c'est qu'un jour de souffrance ?
En tout cas, ce n'est pas aujourd'hui, puisque j'ai le plaisir de faire cette émission avec vous.
Oui, mais ça n'a rien à voir. En fait, je ne sais pas pourquoi, mais je savais que ça, ce que ça signifiait. C'est comme ça qu'on appelle, en réalité, une petite fenêtre qu'on est autorisé à percer dans un mur, mais à condition que cette fenêtre ne s'ouvre pas. C'est-à-dire, c'est uniquement destiné... Vous savez, normalement, vous ne pouvez pas percer une fenêtre dans un mur si ça donne chez votre voisin.
Oui.
Bon, mais là, c'est autorisé. Et d'ailleurs, elle donne la définition du dictionnaire. Ah. Jour de souffrance, B, qu'on peut ouvrir sur la propriété d'un voisin à condition de la garnir d'un châssis dormant.
D'accord.
Voilà. Mmh. Alors, c'est joliment, c'est une bonne idée d'avoir pris ça, parce que d'abord, c'est assez affreux, jour de souffrance, on s'imagine, et même l'expression est assez affreuse. Alors, c'est jour au sens de ça apporte le jour, mais on souffre que, voilà. Hein. Bon, alors, Catherine Millier a écrit, alors c'est, je le rappelle, c'est assez connu comme personne, mais je le rappelle pour les plus jeunes de nos auditeurs, donc c'est la directrice d'une revue qui s'appelle Art Press, et c'est une personne qui fait la pluie et le beau temps dans le monde de l'art contemporain, voilà. Alors, vous pensez ce que vous voulez de l'art contemporain, mais
donc,
enfin,
quand
c'est
on
comme
va
ça.
À Vassivière et qu'il pleut, et qu'on ouvre son parapluie, c'est la faute de Catherine Millier.
Quelque part, oui. Non, mais c'est vrai qu'elle est allée. Alors, elle va partout. Elle va à la Documenta, à Cassel, en fait, etc. C'est la directrice d'Art Press et c'est une assez jolie femme. Et alors, elle s'est rendue extrêmement célèbre le jour où elle a écrit un livre qui s'appelle La vie sexuelle de Catherine M. Et c'est 220 ou 30 pages où elle raconte à peu près, à toutes les pages, tous les hommes avec qui elle a couché. Et il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Alors,
est-ce que ça peut être assimilé à une forme d'art contemporain ?
Non, mais écoutez, tout peut être assimilé à une forme d'art contemporain.
Pourvu que ça soit déconstruit.
Bon, je vous avouerai que j'ai de plus en plus de mal avec l'art contemporain.
Oui, mais pas avec voilà. Jour de souffrance.
Ouais, alors, donc, elle écrit. Alors, il se trouve que Catherine Millier est mariée, je ne sais pas. Donc, elle vit avec un écrivain qui s'appelle Jacques Henrique. Jacques Henrique, assez peu connu. Il a eu un petit peu de presse il y a quelques années. Je crois qu'il avait publié un livre sur l'origine du monde. Et alors, il y avait le célèbre tableau, le célèbre tableau de Jean-François Millier. Je crois, et ça avait fait un peu de scandale. Enfin, c'est quelqu'un qui n'est pas connu. Elle raconte, donc, pareil, sur 220 ou 30 pages, voilà, 245 pages.
Mais dites-moi, Catherine Millier serait-elle une descendante de
Jean-François Millier? Non, enfin, peut-être pas, elle ne le dit pas, c'est possible. Enfin, en tout cas, ce qu'elle raconte dans Jour de souffrance, c'est la jalousie et la souffrance qui en résulte avec... donc, envers ce Jacques Henrique. Alors, c'est une espèce de jalousie, tous azimuts, parce que elle passe à un endroit, elle sait que Jacques Henrique est passé là il y a plusieurs années avec une autre femme, mais avant même qu'elle soit avec lui, etc. Donc, elle est jalouse du passé, elle est jalouse de l'avenir, parce qu'elle se dit, ah bah tiens, je suis sûr que Jacques, s'il pouvait le faire, il viendrait là pour coucher avec une autre femme, enfin, etc. Et donc, c'est une espèce... Mais cela dit, c'est beaucoup plus intelligent que ce que je dis. C'est une longue introspection psychologique et qui est sous-titrée récit. Et récit, vous savez, dans le vocabulaire littéraire, ça veut dire ce que je vous raconte, c'est vrai. Alors voilà, elle se regarde étant jalouse, souffrant de sa jalousie. Il y a un côté narcissique évident, mais elle n'en tire pas un plaisir considérable. Alors, pour être franc, c'est très bien écrit, très soigneux, il y a vraiment du style, mais c'est très abstrait en même temps, très psychologique, et pour tout dire, un peu ennuyeux. Alors,
si vous êtes un admirateur de Catherine Millet, vous pouvez lire donc Jour de souffrance, récit, et c'est chez Flammarion.
Thank you.
Voilà, c'était un extrait de la symphonie italienne de Félix Mendelssohn Bartholdy, dirigée, symphonie numéro 4 en la majeure, pour ceux qui veulent tout savoir, dirigée par Kirill Kondrachin, qui a été un chef d'orchestre russe, soviétique, je dirais même, très connu, et qui, je crois, est disparu maintenant. Voilà. Qu'est-ce que vous avez de beau, Francis ?
Oh, ben, je vous propose une petite balade dans des paysages verdoyants. Green Landscapes, c'est une composition de Eric Seva, qui est musicien français que je diffuse assez fréquemment, saxophoniste. Et il est accompagné ici de... Kevin Révérend à la batterie.
Kevin Révérend est un limousin.
Et Jean-Luc Difraya à la contrebasse.
Thank you.
Reste le temps de nous faire plaisir en écoutant une petite pièce de Jean-Sébastien Bach.
Alors, une petite pièce qui est extraite d'une cantate, c'est un air qui dit « Alors, Phoebus ait mit schnellen Pferden, Phoebus hâte avec ses chevaux rapides ».
Oh,
Voilà, bah c'était un bout de cantate de Bach. Phébus se hâte avec ses chevaux rapides. Et c'était Ellie Hamling qui chantait ça, accompagnée par Eugen Jokum.
Phébus,
c'est Apollon.
C'est Apollon, ouais. Donc quelque part c'est le soleil aussi.
C'est
quoi.
Le soleil.
Ah oui, le char solaire
c'est
tiré.
Le char, voilà, c'est le char du soleil.
Magnifique. Merci pour ce petit cadeau de fin d'émission.
Oh, merci. En tout cas, bonne soirée. Merci Francis pour la parfaite réalisation de cette émission. Et bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous. Et on se revoit la semaine prochaine.
La semaine prochaine, même heure, même antenne, sur RTF 95.4. Thank you.